Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 20 octobre. Le nombre de cas de Covid-19 continue de progresser dans le Rhône, les derniers chiffres dans cette édition. Après son coup de gueule contre le gouvernement, le restaurant de l'ouvreur du Loup, Jonathan Wisniewski, va pouvoir rouvrir dès ce mardi. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, dépose plainte après avoir reçu des menaces de mort consécutives au vote d'une aide humanitaire apportée aux populations arméniennes sinistrées. La ville de Tassin va proposé de baptiser du nom de Samuel Paty la future école du quartier de la Libération qui devrait être construite sur le terrain des maraîchers. L'offre du tramway T3 entre la Part-Dieu et l'Est lyonnais améliorée à partir de novembre. Une amélioration de 20% avec deux nouvelles rames, conséquence de la reprise en régie directe de Rhône Express qui emprunte les mêmes voies. Mieux comprendre les enjeux du numérique grâce à Fréquence École et à son événement Super Demain. Explication de Charlène Robert dans cette édition. Et puis la sortie du film Kaamelott d'Alexandra une nouvelle fois reporté.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le nombre de cas graves de Covid-19 continue donc de progresser dans le Rhône. 8 décès survenus ces 24 dernières heures dans les hôpitaux du département, soit 820 patients décédés à l'hôpital depuis le 1er mars. 66 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, dont 9 en réanimation. 671 patients sont hospitalisés pour Covid-19 dans un établissement de santé du Rhône. 128 patients se trouvent dans un service de réanimation soins intensifs. Après son coup de gueule contre le gouvernement, le restaurant de l'ouvreur du Loup, Jonathan Wisniewski, va pouvoir rouvrir ce mardi. Le joueur avait fait état de son ras-le-bol devant la fermeture imposée de son restaurant à Saint-Égrève. Les forces de l'ordre étaient venues lui annoncer vendredi la fermeture de l'établissement en vertu d'un décret présentant les restaurants à buffet comme foyer de contamination. Le décret a finalement été modifié et le saladerie de Saint-Égrève va pouvoir rouvrir aujourd'hui. Les explications et la réaction de Jonathan Wisniewski.
On a tout mis en place, également mis toutes les équipes en chômage partiel. Et à 13h, on a reçu un mail nous annonçant que le décret ce matin avait été changé. Donc soit par bon sens, soit par un peu de chance, soit par, par l'impact aussi peut-être de l'économie un petit peu, qui a eu pas mal de retentissement. Voilà, nous annonçant que désormais les buffets étaient à nouveau autorisés à ouvrir avec des conditions sanitaires, des pinces à usage unique, chose qu'on fait depuis le 10 juin, des plexiglas anti-poussière, chose qu'on fait également le 2 juin, avec une désinfection des mains à l'entrée du restaurant, chose qu'on fait le 2 juin. Voilà, donc on nous a appris ce matin que notre protocole sanitaire depuis la réouverture depuis 4 mois a été exemplaire et qu'il fallait continuer de la même façon. Donc là, comme vous voyez, on est en train de courir dans tous les sens pour remettre le restaurant en œuvre pour pouvoir réouvrir demain, parce que voilà, le point le plus compliqué, c'est que vous doutez bien, on a perdu samedi, on a perdu lundi en chiffre d'affaires et c'est des moments assez délicats et importants. Donc voilà, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on réouvre demain. La plus délicate, c'est qu'on a perdu 2 jours de chiffre d'affaires et dans ce contexte, c'est 2 jours qui sont importants. C'est quasiment sur un mois complet 10% de chiffre d'affaires qui va nous manquer à la fin du mois, donc on va s'accrocher.
Jonathan Wisniewski, ouvreur du Loup et patron du Saladerie à Saint-Égrève, un concept qui sera bientôt à Lyon. Jonathan a en effet prévu d'ouvrir un deuxième établissement à OL-Vallée à Décines. Le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a déposé plainte hier à Lyon après avoir reçu des menaces de mort consécutives au vote d'une aide humanitaire apportée aux populations arméniennes sinistrées. Ces menaces ont été proférées à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. La région Auvergne-Rhône-Alpes a voté en session plénière l'affectation en urgence d'une enveloppe de 100 000 euros pour la population arménienne. Cette somme a été allouée au Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. À la clé, l'expédition de 10 tonnes d'aide humanitaire destinées aux populations arméniennes sinistrées par la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au Haut-Khalabar. Le chargement a été composé de médicaments, matériel médical et matériel de survie. L'ancien député maire communiste de Vénissieux, André Jurin, traduit la mort par décapitation d'un enseignant comme un acte revendicatif de l'islamisme radical contre la République. Jurin est sorti de sa retraite politique et a réagi dans une lettre ouverte à l'assassinat par décapitation de Samuel Paty, professeur d'histoire géo dans les Yvelines. Cet acte est un tournant, on s'attaque directement à un homme qui représente l'éducation, la connaissance, la rationalité. On peut se demander si la République a suffisamment protégé cet enseignant. Il faut dire stop, estime André Jurin. L'ancien maire de Vénissieux prône une union sacrée entre la gauche et la droite pour combattre l'islamisme. La ville de Tassin va proposer de baptiser du nom de Samuel Paty la future école du quartier de la Libération qui devrait être construite sur le terrain des maraîchers. En attendant, Tassin-la-Demi-Lune rendra hommage demain à la mi-journée à Samuel Paty. La cérémonie ouverte au grand public se déroulera en présence du corps enseignant, des parents d'élèves et des habitants dans la cour de l'école Leclerc.
Lyon demain, La radio sans pub.
L'offre de tramway T3 entre la Part-Dieu et l'Est lyonnais sera améliorée en novembre de 20% avec l'arrivée de deux nouvelles rames. Annonce faite hier par Bruno Bernard, le président du Citral. C'est l'une des conséquences de la reprise en régie directe de Rhône Express après que la convention avec l'exploitant a été cassée. Le comité syndical du Citral a voté la baisse de 50% des tarifs actuels proposés aux 5650 salariés de la plateforme aéroportuaire. Le titre aller-retour passe ainsi de 10,10 € à 5 €. Mais attention, pour le grand public, le prix du ticket est pour l'instant maintenu à 16,30 € pour un aller simple acheté sur place. La base Intermarché à l'arrêt à Rérieux après un incendie survenu dans la nuit de vendredi à samedi. 16 000 m2 ont brûlé sans faire de victimes. Le site a été mis à l'arrêt. La partie principale comprenant les denrées alimentaires et l'épicerie sèche a été intégralement détruite par le feu. 22 000 m2 ont pu être sauvés toutefois. L'origine du sinistre pourrait être liée à une défaillance électrique. Les salariés ont été informés qu'ils pouvaient rester chez eux le reste de la semaine. Le site emploie 160 personnes en CDI et 120 intérimaires. Il doit fermer ses portes définitivement en avril prochain. L'activité devant être transférée en Isère à Saint-Quentin-Fallavier.
Lyon demain ? Idées en partage.
Mieux comprendre les enjeux du numérique à travers différents ateliers, conférences et formations, c'est ce que propose l'événement Super Demain, organisé par Fréquence École. Explication de Charlène Robert.
Dans un environnement où le numérique occupe une place prépondérante dans le quotidien de tous, toutes tranches d'âge confondues, il est important de se questionner sur son usage et ses répercussions. Super Demain, qui se déroulera du 13 novembre au 13 décembre à travers différents rendez-vous au sein de plusieurs communes différentes du Grand Lyon, propose de s'interroger et de travailler sur ces thématiques qui nous touchent. Tous. Présentation de l'événement avec Dory Bruyat, directrice de l'association organisatrice Fréquence École.
Super Demain, c'est un grand rendez-vous consacré à la place du numérique et des écrans dans la vie des enfants, des adolescents et des familles. C'est comment est-ce qu'on fait pour s'adapter aux changements qui sont en cours, qu'est-ce qu'on fait de la place croissante du numérique dans nos vies, comment on transforme le numérique en compétences et en opportunités, comment est-ce qu'on réinvente aussi le numérique qui nous concerne et qui est proche de nous. Super Demain, c'est tout ça en même temps.
Et c'est donc un événement qui fête cette année ses 9 ans et qui se déroulera sur plusieurs communes différentes.
C'est-à-dire que précédemment, c'était un grand rendez-vous et avec le Covid, on s'adapte à la crise sanitaire et donc ça devient 13 territoires qui vont accueillir en fait des mini-formes de Super Demain, des ateliers, des conférences, des interventions dans les collèges et auprès des collégiens. Donc en gros, on reconfigure et on dispatche sur le territoire, mais la bonne nouvelle, c'est que ça nous permet de rencontrer plus de gens, d'aller à la rencontre véritablement des territoires et des populations.
À l'animation se complète la réflexion avec des séries de conférences. Quels sont justement les enjeux de l'usage numérique ?
En fait, on comprend un peu mieux comment le numérique, il est venu bouleverser nos vies, ce qui change, ce qui questionne. On se demande si le numérique, c'est à la fois poison et remède. On se demande si le numérique, c'est un espace d'opportunité. Est-ce que ça peut nous rendre heureux ou pas du tout ? Est-ce que ça, c'est l'inverse qui se produit ? Donc c'est vraiment des rendez-vous pour penser aussi la place du numérique dans nos sociétés.
Il y a également la mise en place, je cite, d'un programme d'accompagnement inédit dédié aux professionnels, c'est-à-dire ?
Les professionnels de l'action éducative, au sens large du terme, ils ont besoin d'être le plus accompagné possible. Donc du coup, ils ont besoin de développer eux-mêmes des compétences. Et donc, on a créé une plateforme en ligne qui permet de savoir exactement comment est-ce qu'on fait pour accompagner son public sur la question du jeu vidéo, sur la question de la petite enfance et du numérique, sur la question de la place de la robotique dans nos sociétés. Et donc, c'est vraiment une plateforme de formation en ligne avec des contenus, des vidéos, des tutos, des solutions qui vont leur permettre de saisir un peu mieux des contenus. Et ensuite, derrière, il y a des formations en présentiel. On a 100 places qui sont gratuites et ouvertes à tous. Et ensuite, enfin, la possibilité pour eux, en plus, de venir aux conférences.
Les collégiens, eux, auront un parcours d'éducation aux médias et à l'information. Dans un contexte où les informations circulent à une vitesse folle grâce au numérique, ce dernier programme de Super Demain résonne comme un devoir civique.
L'éducation aux médias et au numérique participe de l'enseignement civique, mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important en transversalité. C'est-à-dire aujourd'hui, un prof d'histoire a intérêt en fait à investir la place des médias et la question des médias évidemment dans la relation qu'il entretient avec ses élèves. Du coup, c'est une nécessité que de savoir finalement comment elle marche cette information, comment elle est produite, pourquoi elle arrive jusqu'à nous, comment les filtres algorithmiques qui vont créer des biais aussi informationnels. Comment est-ce que ça participe à la construction de mon point de vue, de ma pensée? Et comment est-ce que du coup je dois maintenir une forme d'esprit critique qui me permet en fait de progresser et de mieux comprendre le monde dans lequel je vis?
Un événement qui est soutenu par la métropole de Lyon. Emeline Baume, vice-présidente à la métropole de Lyon en charge de l'économie, de l'emploi, du numérique, du commerce et des achats publics, nous parle du rôle joué par la métropole pour Super Demain.
La métropole de Lyon, depuis plusieurs années, elle accompagne plusieurs lieux de médiation. Concrètement, c'est un accompagnement financier et une ouverture vers des partenaires de la métropole et des lieux. Et là, aujourd'hui, on parle d'un partenaire qui porte haut les couleurs des questions d'inclusion et d'éducation au numérique, et aux usages du numérique, à l'information aux médias. Donc l'association Fréquence École, qui est partenaire de la métropole vraiment depuis plusieurs années, mais qui a une force, c'est d'être très à l'aise sur ce qu'on appelle les démarches d'éducation populaire et citoyenne, d'être en capacité de parler aux institutionnels de l'éducation et d'être aussi en capacité de s'adapter aujourd'hui à la situation sanitaire et de proposer des rencontres à des publics différents, donc du grand public, des collégiens et des professionnels, avec des temps de formation mais aussi avec des temps de grands débats dans 13 territoires différents de notre métropole de Lyon.
Pourquoi est-ce important justement d'accompagner les enfants et de sensibiliser les familles sur la thématique du numérique?
Parce que le numérique est partout en fait dans notre quotidien, quel que soit notre pouvoir d'achat, il est appréhendé de façon très différente et l'idée c'est pas de se dire le numérique c'est mal, les écrans c'est mal, l'idée c'est de se dire pourquoi je m'en sers, comment je m'en sers, avec quel support, avec quels objectifs et comment je suis un être humain avec du sens critique qui fait ses propres choix. Voilà, plutôt que de tout voir en noir ou en blanc, de donner en tout cas de la perspective aux enfants, aux adolescents, aux adultes qui vont rencontrer les experts mobilisés par Fréquence École pour pouvoir développer ce qu'on appelle leur esprit critique autour du numérique.
Super Demain, qui se déroulera sur 13 communes différentes du Grand Lyon à partir du 13 novembre et jusqu'au 13 décembre. Plus d'informations sur le site superdemain.fr.
Merci Charlène. Météo France a décidé de placer le Rhône, l'Ain, la Loire et la Haute-Loire en vigilance jaune pour cause de vent violent, et ce jusqu'à 16h cet après-midi. Des rafales sont attendues jusqu'à 90 km/h. La sortie du film Kaamelott d'Alexandre Astier, une nouvelle fois reportée. En mai dernier, la société de production et de distribution appartenant au groupe M6, qui produit et distribue le film, avait annoncé le report de la sortie au 25 novembre. La sortie en salle a été une nouvelle fois reportée, cette fois sans fixer de date. La production évoque la situation sanitaire et les nouvelles mesures gouvernementales. Les cinémas ont en effet perdu une partie essentielle de leur chiffre d'affaires, avec des projections se terminant au plus tard à 20h30. Plusieurs blockbusters ont déjà repoussé leur date de sortie. Le tournage de Kaamelott, le film, a eu lieu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Excellente journée.